RFJ Info.
Le journal de Raphaël Salvera.
Bonsoir. Le centre de vaccination cantonal contre le Covid-19 est opérationnel. Il a ouvert ses portes cet après-midi à Courtétel. Un important dispositif de sécurité sanitaire a été mis en place. Des affiches aux allures mortuaires ont fleuri sur les vitrines des commerces de la région, contraints de fermer leurs portes aujourd'hui. On peut y lire que les non-essentiels remercient le Conseil fédéral. Les commerçants ne sont pas à l'origine de cette démarche. Le début de l'école de recrue met de manière virtuelle pour certains nouveaux conscrits de l'armée suisse. Coronavirus s'oblige, ils ont pris leur service depuis leur domicile. Éclairage dans ce journal. Météo, attention aux gelées qui vont sévir ces prochaines heures. Le temps devrait être plus clair demain, même si les nuages réduiront l'ensoleillement. Le thermomètre affichera entre 4 et 5 degrés dans le Jura au meilleur de la journée. Le centre de vaccination cantonal contre le coronavirus a accueilli ses premiers patients. Le site a ouvert ses portes aujourd'hui dans les locaux de l'ancienne entreprise Simon et Membré à Courtétel. Environ 150 personnes y seront vaccinées par jour dans un premier temps. Une capacité qui pourrait augmenter jusqu'à 600 si le canton du Jura reçoit suffisamment de doses. Une grande sécurité sanitaire a été mise en place à Courtétel. L'adjoint du chef à l'état-major cantonal de conduite, Damien Scheder, veut veiller à un élément en particulier.
Trouver le bon rythme entre la personne qui arrive, le timing qui a été donné et le temps de son parcours ici. On doit bien penser que l'aspect sécuritaire, sanitaire doit être le maître mot ici. On ne doit pas avoir un cluster qui est dans un centre de vaccination.
Qui sont les gens qu'on va retrouver ici sur ce lieu de travail ?
Nous avons des gens qui ont été engagés spécifiquement pour la partie administrative. Nous avons la protection civile qui sera aussi utilisée à ces fonctions-là. Plus du personnel de la préparation, je dirais plus technique, de la vaccination, c'est-à-dire nous avons des pharmaciens pour conditionner les vaccins et après des infirmiers et infirmières qui ont l'habilitation de vacciner. Nous avons affaire à des professionnels qui ont l'habitude de faire ça, je dirais quasiment tous les jours. Et c'est une volonté aussi de ne pas dédier ça à d'autres personnes qu'on aurait pu former peut-être à cet acte-là, mais bien de rester avec des conditions sanitaires les plus hautes possibles.
Pour garantir une certaine sécurité par rapport au vaccin, le centre doit répondre à un important défi logistique. On retrouve Damien Scheder.
Le stockage est limité à l'utilisation déjà de la journée, mais aussi un autre problème, c'est la surveillance des frigos qu'on aurait ici toute la nuit. On ne peut pas se permettre d'avoir des frigos qui ne sont pas sous surveillance, raison pour laquelle on a un lieu qui est confidentiel où tout est sous contrôle par rapport à ça. Et c'est uniquement les doses nécessaires, quitte à faire deux voyages durant la journée pour amener ce qu'il nous faut.
Un dossier réalisé par Michel Léoni. Notons encore que 1000 Jurassiens ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre le coronavirus. Vous pouvez découvrir le centre cantonal en photo sur rfj.ch. Le vaccin contre le Covid, justement, fait beaucoup parler de lui. Certains pointent du doigt les effets secondaires possibles. Mais en cas de problème, qui est responsable ? Alexandre Michler fait le point sur la question.
En cas de dommage causé par un vaccin, plusieurs parties peuvent être tenues responsables. C'est ce qu'explique l'Office fédéral de la santé publique dans son dernier bulletin. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de dommages graves, cela ne désigne pas les effets secondaires habituels d'une vaccination, comme par exemple des rougeurs ou des maux de tête, mais un préjudice à plus long terme. Parmi les personnes pouvant être tenues responsables, il y a tout d'abord le médecin ou le pharmacien qui administre le vaccin. Ce dernier est tenu d'informer le patient de la nature et des risques de la vaccination afin qu'il puisse donner son consentement éclairé. Le devoir de diligence du praticien couvre également l'administration correcte du vaccin. En cas de vaccination recommandée ou ordonnée par les autorités, la Confédération peut aussi être tenue responsable. Elle peut accorder, après un examen au cas par cas, une indemnisation ou une réparation morale d'une valeur maximale de 70 000 francs. Enfin, dernier responsable possible, le fabricant du vaccin. Il doit répondre aux dommages lorsqu'un produit est défectueux. A noter pour terminer que selon l'OFSP, les effets secondaires sévères consécutifs à des vaccinations sont très rares.
Et la Suisse compte 4703 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures, indication de l'Office fédéral de la santé publique aujourd'hui. 121 décès supplémentaires sont à déplorer et 203 malades ont été hospitalisés. Les non-essentiels remercient le Conseil fédéral. Vous avez peut-être observé ce message aux allures mortuaires sur les vitrines de commerces jurassiens. Des affiches ont été placardées sur les échoppes qui ont dû fermer leurs portes aujourd'hui suite aux mesures anti-Covid annoncées par le Conseil fédéral. Mais qui est à l'origine de cette campagne d'affichage ? Coraline Kempf.
On pourrait croire que les commerçants se sont organisés et ont chacun placardé leur vitrine. Non, les affiches sont apparues entre dimanche et lundi, c'est tout ce qu'ils savent. Les patrons du bar Le Pépin à Port-Entruy laisseront l'affiche coller, car elle décrit bien la réalité, qui devient catastrophique, révoltante, selon Olivier Ribaud. Et même s'ils adhèrent au message, à la frustration partagée, des commerçants enlèveront l'affiche de deuil, eux. Je ne sais pas qui l'a collé. J'ai peur que ça soit un peu complotiste, dit Anne-Laure Schwab, bijoutière à Delémont, qui a trouvé un marché sur Internet. Isabelle Audier, qui vend du tabac, ne sait même pas si elle pourra ouvrir mardi. Le tabac est un bien essentiel ? Je ne sais pas, réagit la commerçante. Sur les groupes de messagerie, des unions commerçantes ou des restaurateurs, on s'emballe. Des messages fourmis, pleins de rancœur, de colère, d'incompréhension. Il y a deux manières de vivre cette frustration, soutient le président de la structure Ajoulotte, Thomas Schafter. Abandonner ou redoubler d'énergie. Des initiatives locales pourraient voir le jour en marge, comme un système de livraison de marchandises à domicile, à voir si des structures vont éclore de ces deuils affichés sur les devantures.
Une assemblée communale au menu des citoyens des Genevais. Ils se réunissent ce soir à 20h30 à la halle de gymnastique. Le budget 2021 est à l'ordre du jour. Il prévoit un déficit de 176 000 francs. Les autorités vont demander à la population de prélever 100 000 francs dans la réserve conjoncturelle pour combler la perte. Les ayants droit des Genevais sont aussi appelés à approuver divers investissements du syndicat intercommunal GLM. Le début d'une expérience hors du commun pour les nouveaux conscrits de l'armée suisse. Près de 5000 d'entre eux ont commencé aujourd'hui leur service militaire depuis leur maison en raison de la pandémie de Covid-19. Une panne informatique s'est produite en début de journée avant d'être résolue dans l'après-midi. Parmi les personnes concernées par cette expérience atypique figure la recrue Dario Beglin. Elle pointe le manque de suivi de cette instruction qui se déroule en ligne via une plateforme dédiée. Dario Beglin.
Le non-suivi des cours est un peu étonnant, je dois avouer. Je pensais qu'il y aurait un suivi qui serait fait chaque jour et du coup, ça aurait été aussi un peu plus simple pour nous de nous motiver. Mais ensuite, toutes les personnes qui font l'école de recrue sont des adultes et sont censées pouvoir avoir un minimum d'autodiscipline, en tout cas pour suivre les enseignements qui sont donnés.
De son côté, l'administration militaire a dû prendre des décisions inédites. S'il est impossible de remplacer les moments de camaraderie qui marquent le service, l'armée n'a pas renoncé pour autant à garder le contact avec des moyens de communication modernes. Le commandant d'école d'aviation 81, le colonel EMG Alexandre Villy.
Alors nous, on l'a pris en considération, c'est-à-dire que la camaraderie, c'est essentiel pour nous, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, c'est la situation très très spéciale, on est d'accord, on a dû s'adapter par rapport au coronavirus. On est en contact avec eux via le LMS, via cette plateforme d'échange, ils ont un chat, ils ont aussi le numéro de l'école. Donc avec nous, ils peuvent avoir le contact. On cherche le contact aussi de manière proactive. Maintenant, je pense que c'est aussi une chance pour eux d'entrer dans la vie militaire avec un peu plus de calme. Ils auront déjà des connaissances supplémentaires qui fait que quand ils auront chez nous, ils comprendront le système.
Un dossier signé Lucien Ferrenot. Les recrues entameront leur service en caserne le 8 février prochain et goûteront ainsi à une expérience de milice plus traditionnelle. La situation dans les centres fédéraux pour requérants d'asile s'améliore, mais il reste du travail à faire. C'est la conclusion de la Commission nationale de prévention de la torture. Dans son rapport publié aujourd'hui, les membres ont visité 8 lieux d'accueil entre janvier 2019 et juillet 2020. Premier constat, les conditions d'hébergement sont en général conformes aux droits humains et aux droits fondamentaux. L'accès pour les jeunes à un enseignement de base fait partie des points positifs, mais certains points restent préoccupants, comme l'explique Daniel Bolomé, consultant en droits humains et membre de la commission.
La qualité de l'accueil, la prise en charge, les relations avec le personnel, ça se passe globalement bien. Mais moi, je suis extrêmement préoccupé par cette délégation sécuritaire à des entreprises privées et avec le déficit de formation qu'on a constaté chez certains des membres de ces sociétés-là pour une prise en charge qualitative des requérants d'asile. Donc là, je vois un point d'urgence à mettre en place, vraiment, que ces sociétés améliorent la formation de leur personnel.
La commission a d'ailleurs recueilli plusieurs témoignages de cas où le personnel de sécurité est intervenu de manière jugée disproportionnée. Mais mieux former les agents ne suffit pas. Il faut aussi que les requérants connaissent leurs droits et ce n'est pas toujours le cas. On retrouve Daniel Bolomé.
Il y a des juristes qui sont là et qui peuvent participer à l'ensemble des entretiens. Mais ce qu'on a constaté, quand même, c'est un certain nombre de déficits de la part du personnel d'encadrement. en matière d'information sur les possibilités qui sont offertes aux requérants. Et je prends l'exemple simplement des questions de plainte. Si un requérant estime qu'il a été maltraité, est-ce qu'il sait vraiment ou elle sait ce qu'il y a à faire, comment procéder? Cette information-là, elle n'est pas toujours passée. Donc, il y a un gros potentiel d'amélioration en matière d'information des requérants d'asile qui sont ici chez nous.
La nécessité de mieux prendre en charge les besoins psychiques des personnes qui séjournent dans les centres est aussi mise en lumière. La commission préconise d'établir un bilan dès leur arrivée pour les rediriger, si besoin, vers des services compétents. Jean-Marie Le Pen épouse religieusement sa femme Jeannie. La cérémonie s'est déroulée samedi en présence d'un prêtre catholique traditionnaliste. Âgé de 92 ans, l'ancien président du Front National et sa femme de 88 ans étaient déjà mariés civilement depuis 1991. Aucune des trois filles de Jean-Marie Le Pen et aucun des petits-enfants n'était au courant. La mort de Jean-Pierre Bacri, l'acteur français décédé des suites d'un cancer aujourd'hui. Il aurait dû fêter ses 70 ans au mois de mai. Et puis Alexei Navalny appelle les Russes à résister dans la rue. Un tribunal russe a ordonné aujourd'hui le placement en détention de l'opposant pour un mois. En prison, la bête noire du Kremlin a appelé ses compatriotes à porter le combat de l'opposition dans la rue.
RFJ, les 18h12.
Sport. Le HCA joue au défi du showrun. L'équipe de Gary Chian affronte Langenthal ce soir à 19h45. En cas de victoire, elle ravira aux Bernois la deuxième place du classement de Swiss League de hockey sur glace. Cette partie est à suivre en direct et en intégralité sur RFJ à partir de 19h30. Le suspense n'aura pas duré longtemps. Les championnats du monde de hockey sur glace n'auront pas lieu en Biélorussie cette année. Une semaine après la visite controversée du président de la Fédération internationale René Fazel à Minsk, l'instant a retiré l'organisation au pays dirigée par Alexandre Loukachenko, considéré comme le dernier dictateur du continent. La Lettonie était l'autre pays hôte du tournoi. Elle pourrait l'organiser seule. La Slovaquie et le Danemark ont aussi manifesté leur intérêt. Enfin, l'équipe de Suisse de football disputera son premier match de l'année le 25 mars en Bulgarie. La partie comptera pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La sélection de Vladimir Petkovic recevra ensuite la Lituanie le 28 mars à Saint-Gall, toujours pour le compte des éliminatoires du Mondial. Très belle soirée.
Ce soir et cette nuit, Météo News annonce un temps calme, sec et froid avec de fréquentes gelées qui seront présentes ou pas demain dès l'aube. Soyez très vigilants si vous êtes sur la route. Demain, les bandes brouillards sont attendues au pied du Jura dans les Bas-Vallons. En matinée, les conditions devraient être lumineuses. Le soleil cependant sera toujours très discret et les nuages sensibiliseront l'ensoleillement. Les températures demain à l'aube oscilleront entre moins 6 et moins 5 degrés. Les maximales, elles, avoisineront les 5 degrés. Un peu plus de douceur avec ces températures à la hausse et de la patience, puisque afin de voir le soleil et un retour des éclaircies, il va falloir patienter jusqu'à mercredi.